Rebonsoir pour la deuxième partie d'émission, une partie d'émission un peu spéciale puisque nous sommes en léger différé de Lyon, mais en direct avec un auteur que nous avons grand plaisir à retrouver, Christian Rebonsoir.
Bonsoir.
Très rapide biographie, premier roman, 2002,
oui,
je crois, donc Braquage, et vient de sortir ce que je crois être, mais j'arrive me perdre toujours dans les nombres, le 8e roman.
Je crois aussi.
Voilà, donc Chez Rivage, Que la guerre est jolie, donc le 8e roman, faut aussi découvrir tous les autres, il sort en ce début de printemps. Et on parle souvent des personnages dans les interviews qu'on fait. Pour moi, dans ce roman, le personnage principal, avant tout, c'est la ville. Vous en parlez souvent comme une personne, et une personne qui est blessée même, voire malade.
Oui, ben c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est plus un patient en souffrance qu'un personnage. Ça ne peut pas être totalement un personnage parce que la ville est le résultat de l'action des hommes, mais la ville elle-même n'agit pas. La ville elle-même n'a pas de bras, n'a pas de jambes, ne peut pas commettre des actions. Donc en fait, c'est. Mais elle est comme un patient malade dont certains vont essayer de s'occuper et certains autres vont essayer d'empirer son état.
Alors on a oublié quand même de la présenter, cette petite ville, une petite ville moyenne, Larmont. On peut la situer, c'est une ville imaginaire, mais on peut la situer au nord de Paris.
Oui, au nord de Paris, environ une heure de Paris. En fait, le modèle, ça pourrait être Soissons, Amiens, des villes de ce genre-là, en fait.
Et on va, à la suite de beaucoup de personnages, aller dans plusieurs quartiers. Et parmi ces quartiers, il y en a un qui est particulièrement blessé. C'est, alors, un quartier... Est-ce que je peux parler d'une cité ouvrière ?
Oui.
C'est une cité ouvrière. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver à cette cité ouvrière ?
Ah bah en fait, ce qui pourrait lui arriver, c'est un quartier ouvrier un petit peu sur le modèle des cités jardins comme il y avait une époque, qui a été monté par un patron paternaliste qui s'appelait Étienne Vinaigrier. Et ce quartier, donc, il y a plus de 100 ans maintenant, pas loin de 120 ans, a longtemps été laissé en déshérence par la mairie, mais la mairie a fini par se dire « Ah, quand même, l'usine, elle a style 19e, belle poutrelle métallique, les petites maisons, c'est des petites maisons en briques qui sont très jolies, qui sont jumelles, mais si on les rassemble, ça peut faire des beaucoup plus grandes maisons. » Bref, ils se disent, ce qui se passe dans pas mal de villes de province quand même, pas très très loin de Paris, on pourrait faire un quartier beaucoup plus attirant pour les gens qui ne peuvent plus vivre à Paris mais qui ont quand même les moyens d'acheter des choses et s'acheter des belles choses, donc transformer l'usine en loft, les maisons, faire des belles maisons bourgeoises avec en conservant le cachet quand même qui fait chic de vieille cité ouvrière avec un passé historique. Et sauf que les gens qui habitent ce quartier...
Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a de vrais gens. C'est pas que des murs, c'est pas que des poutrelles.
Et ben,
il y a quand même des gens. Et ces gens, ils ont pas tellement envie de voir le quartier se détruire. Ils ont pas envie de rentrer dans des beaux appartements tout neufs, mais surtout beaucoup trop chers pour. Donc, on va entrer en état de guerre, de résistance, d'insurrection.
Oui, quasiment, c'est ça. En fait, la mairie va essayer par plusieurs moyens de faire en sorte que les habitants dégagent. Afin de mettre des gens plus riches à leur place. Ni plus ni moins, c'est exactement... Enfin, c'est le phénomène de gentrification des quartiers. Sauf que lui, que ça se passe naturellement sur le mode économique, comme à Paris, où de toute façon, les logements sont tellement chers que tous les pauvres dégagent, et ben là, on est obligé d'utiliser des moyens de coercition un peu plus musclés.
Et donc, il va y avoir une résistance, mais quand même, le maire, son directeur, ils utilisent quand même des moyens, voire des armes de destruction massive. On va quand même jusqu'à utiliser un ancien mercenaire, personnage au demeurant très très intéressant parmi la kyrielle de personnages qu'on va découvrir dans ce roman. Ce Dirt, il est quand même, il en a vécu des choses, il a un lourd passif. On a envie de le détester, mais dans vos romans, on ne peut jamais détester personne.
Oui, il est quand même sacrément bien. C'est quand même pas un personnage très sympathique, mais effectivement, j'ai quand même eu envie de lui créer une histoire qui fait qu'on a un petit attachement pour lui. Et oui, lui, il est envoyé, c'est un mercenaire. Donc, il a été mercenaire en France-Afrique, il a été mercenaire dans plusieurs pays du monde. Il a franchement commis des actes hautement réprouvables. Donc, les moyens utilisés sont quand même moins violents que les moyens qui sont utilisés pour exciter des guerres pour des intérêts particuliers, comme par exemple en Afrique, où là, les moyens utilisés sont carrément le tir, la mort, l'utilisation de bandes armées, etc. Mais il utilise évidemment des moyens illégaux, et c'est le seul à pouvoir le faire.
Donc, il y a ce mercenaire et il y a un autre personnage. Ces deux personnages vont faire le lien avec les autres guerres, avec les guerres qui sont lointaines. Donc, oui. On voit toujours les ruines, on voit toujours de temps en temps une main qui sort, mais on ne les connaît pas vraiment, ces guerres. Et il y a un parallèle assez extraordinaire qui est fait entre les deux. Ce deuxième personnage qui est très intéressant, c'est le photographe.
Oui. Khaled Koskeya.
J'ai même réussi à bien prononcer
oui,
son nom.
Oui, très bien. Khaled Koskeya, lui, il a été effectivement photographe de guerre, journaliste, grand reporter. Il souffre de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc maintenant, il est dans cette petite ville de province où il fait des photos de mariage, des photos des conseils municipaux, pour le journal local ou pour la mairie, ou des photos officielles pour des iconographies sans intérêt. Et lui, effectivement, il vient de ce monde de guerre et en plus... Et dans le roman, on le suit à travers les cauchemars qui lui restent de ce monde de guerre, en fait, qui est un monde de guerre quand même beaucoup plus violent que celui que subit la ville.
Oui, et puis où il y a beaucoup plus de dommages collatéraux, comme on dit dans les médias, oui. bien informés, toujours très bien informés. Alors, dans cette cité, on va pouvoir visiter plusieurs quartiers, mais dans cette cité, il y a des habitants, à commencer par une jeune femme qui attend un enfant et qui donc, elle, veut construire un avenir.
Oui.
Seulement, est-ce qu'il y a un avenir pour Élise et l'enfant qu'elle porte dans ce quartier? Ça va être un des grands questionnements du roman.
En tous les cas, elle se bat, comme elle le dit à un moment, quand son compagnon lui dit « mais si tu as ce discours », parce qu'elle a un discours sur le fait d'attendre un enfant qui est quand même assez particulier, Élise, mais quand son compagnon lui dit « si tu tiens ce discours, pourquoi tu veux te battre pour faire un avenir au quartier ?» Elle dit « mais non, je veux que le présent continue, je n'ai jamais dit que je voulais qu'il y ait un avenir, ce n'est pas tout à fait la même chose. »
Tout à fait, oui, effectivement, et donc elle veut quand même... Non pas l'immuabilité, parce que je pense pas qu'elle soit contre des choses qui se développent dans le quartier. Elle a au contraire envie que le quartier vive.
Ah oui, qu'elle reconnaît que le quartier entre en déshérence, qu'il est mal entretenu, qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, qu'il faut réparer. Mais comme elle dit à un moment dans le livre, si vraiment il faut réparer ce quartier, ben moi je veux avoir la truelle dans la main et projeter l'enduit sur les murs. Je veux être acteur, actrice dans son cas, de la rénovation de ce quartier, parce qu'elle conçoit bien que comme il a été laissé en déshérence pendant des années, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Elle va faire un petit blog qui va essayer d'attaquer la mairie. D'ailleurs, elle trouve quand même un boulot par rapport à la mairie, ce qui arrange bien, mais on est dans une fiction, on reste toujours dans le roman. Et puis autour, il va y avoir plein de personnes. Et c'est là qu'on part dans les dommages collatéraux, que ce soit dans les guerres lointaines ou dans ces conflits qu'on peut appeler un conflit social. Si on est en plein dans le conflit social.
Absolument. Et économique.
Économique. Alors, il y a plein de personnages. Il y en a deux qui arrivent d'une cité. Et ces personnages sont très, très intéressants parce que très souvent, on les présente très négativement. Et là, il y a toutes les facettes. C'est Kofi et Simon. Oui. Alors, il faut nous parler de Kofi et Simon maintenant.
Oui, alors Kofi et Simon, en fait, ils tiennent le deal dans la cité des Quatre Saisons, qui donc est une autre cité qui n'est pas la cité ouvrière qui, elle, a été construite dans les années 60. Donc, c'est 4 bars de 10 étages. Donc, comme quartier des saisons, on peut deviner que les bars s'appellent été, automne, printemps, hiver. Ils ont un deal, ils font des bénéfices avec ce deal. Et en fait, ils estiment que comme l'État n'est plus présent pour aider la population, c'est à eux de le faire. Donc, par exemple, il y a une jeune femme qui s'appelle Samia qui veut faire des études, ce qui est compliqué en étant à une heure de Paris. Alors, en fait, elle veut faire maths sup, maths spé. Ce qui est compliqué en étant à une heure de Paris avec 8 frères et sœurs dans le même appartement. Et donc, elle va leur demander de l'aide et ils lui accordent effectivement une bourse et ils produisent les disques de rap des musiciens de la cité. Ils font toutes ces choses en estimant que c'est normal, c'est leur rôle en fait.
Autre personnage, pratiquement au milieu de la cité ouvrière, il y a des friches industrielles et il y a une usine. L'usine d'ailleurs d'où sort cette cité non pas radieuse, mais cette cité intéressante. Il y a une usine qui a été investie, des friches qui ont été investies par des artistes.
Oui.
Là aussi, il y a plein de choses à dire sur l'ensemble. Il y a celui qui fait des teufs le soir.
Oui, Squad 9.
Qui n'écoute pas franchement, à mon avis, la même musique que moi, mais ça c'est pas... On lui pardonne. Et puis, il y a un théâtre.
Oui.
Et là, il y a aussi toute une interrogation, et ce qui est fort intéressant dans ce roman, c'est que c'est jamais ni blanc ni noir. Ce type-là, ça fait des années qu'il galère.
Oui, des années qui galèrent, des années qui luttent. Il a participé à la lutte des intermittents en 2003. C'est un type très très militant. Et alors je ne sais pas trop jusqu'où on peut aller pour ne pas trop en raconter.
Juste mais, ne pas raconter, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous interrogez.
Il va être confronté à un choix, voilà, avec la façon dont il va prendre. Excusez-moi. Mais là, il va être confronté à un choix, et la façon dont. Et le choix qu'il va prendre, c'est ce qui va révéler tous les problèmes qu'il a jusque-là avec ses luttes qui n'en finissent pas, qui sont difficiles, qui sont compliquées, avec sa vie. Enfin, un choix qui le remet lui beaucoup en question. Quoi.
Et donc. Vous interrogez, enfin moi je me suis interrogée, donc je suppose quand même qu'il y a un peu un des nombreux sujets, parce qu'on va revenir en fait, c'est pas des nombreux sujets, c'est l'idée de l'artiste dans la ville et la fonction de l'artiste. J'ai senti à plein de moments, par rapport à lui, par rapport aux gens qui essayent de faire vivre cet endroit, mais par rapport à tout le monde, c'est ce besoin fondamental, peut-être plus maintenant qu'avant, du rôle de l'artiste. Doit avoir un œil bienveillant.
Mais en tous les cas, ce rôle, on s'en rend compte dans les yeux, finalement, de ceux qui veulent virer tout le monde de ce quartier, virer les habitants de l'usine. Parce que la solution finale qui est trouvée pour aboutir à ce que les gens cessent de lutter dans ce quartier, c'est de s'attaquer à l'usine, là où il y a les artistes, donc là où il y a la pensée, donc là où il y a la rébellion, la plus immédiatement palpable, là où il y a des gens qui se posent des questions sur le monde et qui essayent d'en avoir des représentations, donc effectivement des artistes. Et c'est plus dans les yeux de leurs adversaires qu'on voit leur importance que dans les yeux de des habitants de la cité elle-même, du quartier, pardon, qui eux s'en rendent pas forcément tant compte que ça.
Et dans ces habitants du quartier, ce qui va naître, et ce qui est un mot qui, je trouve, va bien à l'ensemble du roman, parfois dans les parties les plus pourries, dans certains esprits que j'estimerais assez monstrueux, mais il y a des beaux élans de solidarité. Et par exemple, pour essayer de lutter, on va faire du pain.
Oui.
Et tout d'un coup, on va rencontrer deux personnages magnifiques qui sont Odette et Brahim.
Oui, oui,
en fait. Il faut nous les présenter, ceux-là aussi.
Oui, Odette et Brahim. En fait, simplement pour revenir un petit peu sur la boulangerie, c'est que une des méthodes que le maire légal a utilisée, c'est de racheter toutes les boutiques, tous les magasins et de fermer les pas de porte. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il a racheté la boulangerie, donc il y a la boulangerie dans le quartier, la boucherie, etc. Et à un moment, Élise, c'est parce que l'idée vient d'elle, imagine comme moyen de lutte. D'utiliser des choses très concrètes, déjà de faire revenir le pain.
Le pain et le vin sont souvent associés.
Oui, ça pourrait. Et du coup, cette idée de faire revenir le pain, c'est aussi faire revenir la vie. En fait, la meilleure façon de lutter, c'est d'amener de la vie. C'est ça que ça veut dire. Et il se trouve que dans ce quartier, il y a un SDF qu'il fréquente depuis longtemps, qui s'appelle Brahim, qui a été boulanger, qui pour des raisons X ou Y n'a plus été boulanger, sa femme a fini par le quitter, il a fini par ne plus avoir un rond, il est devenu alcoolique, il a fini à la rue. Et Élise lui propose de remonter une boulangerie, donc une boulangerie participative, hein, c'est dans les locaux de l'usine. Les habitants vont aider à retaper une partie de l'usine pour créer cette boulangerie. Brahim va retrouver d'anciens collègues boulangers qu'il avait il y a 10 ans pour savoir s'ils ont pas, où est-ce qu'il pourrait trouver du vieux matériel et rééquiper la boulangerie. Et il a le coup de main d'une vieille femme qu'on suit à travers divers chapitres dans ce roman qui s'appelle Odette. Et qui finit par, quand même, pour qu'il soit dans des conditions agréables pour faire le pain, par l'héberger chez elle. Et Odette et Brahim vont se mettre à vivre ensemble dans le même appart et à faire du pain ensemble et à vendre du pain ensemble, alors qu'ils sont a priori au départ aux antipodes l'un de l'autre.
Et un des problèmes, justement, c'est de communiquer. Et ce que vous soulevez tout le temps, pour plein de gens dans ces cités, dans la ville, c'est l'incommunicabilité. De temps en temps, ils arrivent à se rejoindre, temps en temps, des étincelles.
Oui, c'est ça, mais en fait,
c'est la vie.
C'est la vie, et puis c'est surtout que parfois, les gens ont l'impression qu'ils ne parlent pas la même langue, et quand ils s'écoutent vraiment, finalement, il y a quand même quelques mots qui ressemblent, quoi. Parce que du coup, on parle quand même la même langue.
On essaie le plus souvent. D'autres personnages aussi, qu'on va suivre un moment, qui vont disparaître ou pas, c'est les jeunes.
Oui.
Et les jeunes. Il y a en particulier le fils du maire.
Le fils du délégué à l'urbanisme.
Du délégué, pardon. Et puis un autre, ce début de vie, c'est pas facile pour eux. La fin de l'adolescence dans une ville en 2018, on cherche, on se trouve pas toujours.
Oui, d'ailleurs, c'est facile ni pour eux ni pour leurs parents. Et les rapports justement entre ce délégué à l'urbanisme et son fils adolescent, J'ai tenu à les développer un petit peu pour montrer que, même s'il est délégué à l'urbanisme, s'il fait partie du camp de l'ennemi, on va dire en quelque sorte, il a des problèmes qui sont exactement les mêmes que peuvent avoir des parents, des ouvriers avec des adolescents. J'ai l'impression surtout que je montre cette fragilité parce que du coup, ils se font quand même pas mal avoir, ces jeunes. Ils se font pas mal manipuler.
Tout à fait.
Mais par leur fragilité extrême dans un monde qui lui-même est de plus en plus fragile.
Ce monde fragile, Élise, on revient à ce personnage, un des personnages principaux, quoique tous ont une importance. Mmh. On parle souvent des seconds rôles, il y a beaucoup de premiers rôles dans ce roman. Et Élise, elle mène aussi une guerre intime, c'est-à-dire que vous parlez de toutes les guerres. Sa guerre intime, c'est cet enfant qui doit voir le jour. Mmh. Et une femme, c'est rare qu'elle puisse dire que c'est pas si elle a envie de mettre un enfant au monde, de procréer. Voilà, c'est ce sujet, les enfants à naître, c'est quand même dur de se poser la question.
Oui, oui, puis c'est devenu un sujet qui s'est mis à avoir beaucoup de résonance dans le roman. Parce que la question de l'enfant va venir de façon très différente et parfois assez violente, même on peut le dire, au sein du roman. Faut se rappeler, alors là, j'ai pas le roman sous la main et je m'en souviens pas par cœur, mais la phrase en exergue parle c'est un poème d'Apollinaire. Non, je parle, c'est un propos d'Élise, mais la phrase en exergue, c'est un poème d'Apollinaire, donc qui parle de ces danseuses surdorées qui embrassent le monde, et parle des bombes, effectivement, et qui, en gros, n'accouchent d'enfants qui ne sont là que pour mourir. C'est beaucoup mieux dit que ça, parce que Apollinaire, c'est quand même autre chose que moi. Mais c'est cette idée. Et je me suis rendu compte que cette phrase, du coup, a eu beaucoup de résonance tout le long du roman. Élise, la grosse question qu'elle se... En fait, elle est très amoureuse de Marc, son compagnon, qui, lui, veut absolument des enfants. Donc, elle veut bien. Pourquoi pas? De toute façon, dans le couple, il n'y a que elle qui peut en avoir. Et du coup, cette question va devenir quasiment un vrai problème entre eux, parce qu'elle continue sa lutte. Lui, Marc, a peur que du coup, à force qu'elle se remue dans tous les sens, ça finisse par porter préjudice à l'enfant. Nous ne dirons pas ici si ça le fait ou pas, mais ça devient du coup donc la grande question, effectivement, qu'elle pose un moment, parce qu'elle lui dit, il faut que tu arrêtes tout, il faut que tu te reposes et tout. Elle dit, à quoi ça sert d'avoir des enfants si c'est pour arrêter de vivre?
Et on a parlé de Guillaume Apollinaire. On va terminer parce que malheureusement nos 20 minutes d'émission, ça finit par être court.
C'est court.
Oui, c'est très court. Le projet, tous ces personnages, cette ville, c'est quand même une photographie de l'instant présent et de montrer un petit peu la société telle qu'elle va et surtout telle qu'elle ne va pas. C'est un des projets du roman.
Oui, c'est un des projets. C'est une photographie extrêmement contemporaine du monde extrêmement contemporain dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, bien sûr.
Et Guillaume Apollinaire, qui a eu beaucoup d'interrogations par rapport à la guerre, et surtout, de temps en temps, on l'a mal jugé quand il a écrit justement « Que la guerre est jolie ».
Adieu, que la guerre est jolie. Oui, on l'a mal jugé, on a mal compris un peu l'ironie de ce vers. Il est venu, mais un petit peu à cause de cette première scène où on voit des rats qui sont trempés dans de l'essence enflammée, puis lancés dans le soupirail. Dans un soupirail pour enflammer un immeuble, par Richard Hurt, qui se souvient à ce moment-là qu'il était en Irak avec un fixeur qui citait souvent Guillaume Apollinaire. Et ça, c'est venu un petit peu comme ça. Mais dès que j'ai eu Apollinaire et la guerre et Richard Hurt, c'était parti. Je savais que j'avais l'odeur du roman.
Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des odeurs nauséabondes. On arrive et des belles odeurs. On arrive au terme de cette émission. Juste vous dire un grand merci, Christian Roux. Rappelez donc, ce roman s'appelle « Que la guerre est jolie ». Il vient de paraître il y a très peu de temps. En ce joli début de printemps. Aux éditions Rivage. Voilà, pas de problème. Eh bien, on vous dit chacun dans son coin avec un bon bouquin et à la prochaine émission.